Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est un voyage dans le temps que nous vous proposons cette semaine dans l'épopée. Il y a 80 ans, le 16 janvier 1938, un clarinettiste et chef d'orchestre américain du nom de Benny Goodman crée l'événement en faisant scintiller le swing des origines dans un temple de l'académisme new-yorkais, Carnegie Hall. Jusqu'alors, cette prestigieuse salle de spectacle accueillait principalement des compositeurs et interprètes classiques, mais ce jour-là, c'est une autre forme d'expression qui va surprendre un public de mélomanes bourgeois peu habitué à la fougue et à la puissance sonore d'un big band jazz. Mais ce n'est pas tout. Outre la hardiesse des musiciens de se produire dans un lieu si guindé, la composition de l'orchestre va susciter bien des commentaires. Ce sont en effet des virtuoses blancs et noirs qui partagent la même scène ce soir-là à New York. Une première dans une telle bâtisse encore très conservatrice. Ce choix plus musical que véritablement politique aura cependant un fort impact dans la société américaine, même s'il faudra attendre encore 25 ans pour que le soulèvement et les revendications de la communauté noire trouvent un écho à l'échelle nationale. Mais revenons à cette fameuse date du 16 janvier 1938. Bien que la qualité sonore nous paraisse un peu poussiéreuse aujourd'hui, c'est un vrai document historique que nous pouvons vous présenter 80 ans après les faits. C'est aussi le témoignage d'une époque durant laquelle le jazz commençait à irriguer la culture populaire américaine. Jean-Pierre Jackson, auteur d'une brillante biographie consacrée à Benny Goodman et parue en 2010 chez Actes Sud, revient pour nous sur ce 16 janvier 1938.
Si on parle du point de vue historique et sociologique, c'est le moment le plus important. Musicalement, ça n'est pas le moment le plus important. Mais sociologiquement et historiquement, et on peut même dire politiquement, puisqu'il y a évidemment une préoccupation politique, c'est-à-dire de faire respecter une musique qui jusque-là était majoritairement, quand on regarde les chroniques du New York Times, des médias dominants de l'époque, était une musique qui n'était pas jugée respectable. Je rappelle que ne serait-ce que 8 ou 9 ans avant, le Larousse de 1929 donne une définition du jazz qui aujourd'hui est évidemment engluée dans l'histoire et qui dit « jazz, musique de nègre caractérisée par l'adjonction d'instruments hétéroclites ». Donc c'est seulement 8 ou 9 ans avant. C'est juste pour faire mesurer l'impact et l'importance que pouvait avoir de présenter des musiciens de jazz au Carnegie Hall. Benny Goodman a longtemps décliné cette invitation en disant « c'est Duke Ellington qu'il faut faire inviter au Carnegie Hall ». Duke n'a jamais voulu. Dans son autobiographie, Duke s'explique dessus en disant tout simplement qu'il était anxieux, quoi. Et d'ailleurs, Benny Goodman et ses invités, donc il y a des membres de l'orchestre de Duke Ellington qui ont bien voulu venir, ils étaient tous mais pétrifiés. Ils sont totalement perdus. Benny Goodman demande s'il doit faire un entracte et on lui dit « ah oui, bien sûr, vous devez faire un entracte ». Et alors Benny Goodman tout de suite ajoute « mais c'est combien de temps ?» On lui dit « ce que vous voulez ». Alors Benny Goodman dit « combien prend Toscanini ?» C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un concert dans un temple de la musique classique. Jusqu'à présent, comme je disais, il a joué dans les ballrooms, les city halls, mais essentiellement pour la danse tout de même. Le jazz, jusqu'à l'arrivée du bebop, est essentiellement une musique de danse. Benny Goodman non seulement fait coup double, si je puis dire. C'est-à-dire, d'une part, il fait entrer le jazz dans le temple de la musique classique aux États-Unis, mais en plus, il présente une formation qu'on appelle à l'époque « mixte ». C'est-à-dire qu'il y a des musiciens noirs et des musiciens blancs qui jouent ensemble. Ça n'est encore possible que à New York. C'est surtout le symbole qui est important. C'est-à-dire, la première fois, dans un temple de la musique classique, des musiciens italiens, juifs, créoles, tout ce que vous voulez, jouent ensemble une musique qui leur est commune.
En choisissant de réunir sur scène à Carnegie Hall des musiciens blancs et noirs, il est pertinent de s'interroger sur l'engagement citoyen de Benny Goodman en 1938. Jean-Pierre Jackson refuse d'y voir un quelconque activisme.
La seule posture qu'a adoptée Benny Goodman, c'est la musique, la musique, la musique. Il n'y a que ça qui l'intéressait dans la vie, c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Mais ça n'est pas un militant. Ça n'est pas un militant. Il a en effet, pour la première fois, fait se produire des musiciens blancs et des musiciens noirs en public. Ça, c'était à une époque où il y avait évidemment le Ku Klux Klan, la Légion des Fils de l'Amérique, les Ligues de Décence, et tout ce qu'il pouvait y avoir de réactionnaire et même de pro-fasciste dans l'Amérique des années 30. Une partie importante, enfin non négligeable en tout cas, de l'Amérique est très sensible au fascisme qui s'installe en Europe à cette époque, de Hitler, de Mussolini, de Franco, etc. etc. Tout ça est indiscutable. Benny Goodman n'est pas un militant. En revanche, il n'a pas de préjugé racial quand un musicien est bon. Et qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, il en a vraiment rien à faire. Benny Goodman fréquente ces gens-là parce que ce sont des bons musiciens.
Finalement, la personnalité de Benny Goodman reste somme toute assez mystérieuse. Ce brillant clarinettiste a écrit de belles pages de l'histoire du jazz, sans coup d'éclat, mais en suscitant l'attention de l'Amérique tout entière à travers des prestations qui le hissèrent au rang de roi du swing. Un titre pompeux, décerné par les acclamations d'un public majoritairement blanc, mais qui indisposait l'intéressé lui-même.
Benny Goodman a toujours refusé l'épithète de King of Swing qu'on lui a attribué. C'est un journaliste un peu manchot qui lui a attribué ça distraitement dans un article, et ça a fait florès. Mais Cab Calloway était la vedette du Cotton Club où se pressait tout ce qu'il y avait de stars. La bourgeoisie blanche idolâtrait Cab Calloway. Je veux dire, il y a plein de documents où on voit Marlene Dietrich, Gary Cooper, etc. Plus évidemment les Vanderbilt, toute la bourgeoisie protestante de New York. On fait la fête à Cab Calloway, et pas seulement à Cab Calloway, mais à Duke Ellington. Duke Ellington avait un succès, mais considérable. Benny Goodman n'a jamais vendu un 78 tours à 1 million d'exemplaires. Donc il faut un peu corriger. Je comprends qu'on ait envie de défendre la place des musiciens noirs dans le jazz. Je pense que c'est un combat gagné d'avance, car leur place est évidemment prépondérante. Ceci étant dit, le jazz, pour moi, n'est pas l'expression des noirs, c'est l'expression d'une fusion de toutes les minorités américaines dans lesquelles la place, non seulement sociologique, mais la place musicale, bien entendu, de la communauté noire est absolument prépondérante. Ça, c'est indiscutable. Je me suis intéressé à Benny Goodman d'un point de vue, je dirais, presque polémique. Parce que ce musicien présente une contradiction très intéressante entre une popularité dont aujourd'hui encore on ne se fait pas vraiment l'idée, et c'était vraiment de la folie. C'est-à-dire les gens font 4 heures de queue le matin, parce qu'il y avait des shows à 10 heures du matin, dès 7 heures, dès 6 heures du matin, les gens faisaient la queue dans la rue, quel que soit le temps, avec des policiers à cheval pour essayer de maintenir l'ordre, parce que les gens dansaient déjà sur les trottoirs, etc. Et de la folie. Enfin, quand il y avait 1000 personnes qui rentraient au Paramount, il y en avait 4000 dehors qui ne pouvaient pas rentrer, il y a eu des bris de glace, des émeutes, enfin bon. On se représente pas très bien. Et donc il y avait contradiction entre le fait que c'était un artiste extraordinairement populaire, et ce n'était pas à cause de la publicité, parce que la publicité était pratiquement inexistante en ce qui concernait le jazz, donc c'était vraiment le bouche à oreille, on peut dire, et le rôle immense de la radio, bien sûr. Et en même temps, du point de vue de la critique, il y avait, sinon une dénégation de sa place, en tout cas, une minoration du rôle qu'il a joué, non pas dans le jazz considéré d'un point de vue sociologique ou politique, ce qui peut être intéressant, bien sûr, mais du point de vue musical. Et donc il y avait cette contradiction entre une popularité immense et une espèce de déni critique et historique.
Que l'on puisse penser du rôle de Benny Goodman dans l'évolution de la cause noire aux États-Unis à l'aube des années 40, il est aujourd'hui incontestable que ce concert du 16 janvier 1938 à Carnegie Hall a marqué les esprits et agité les consciences. Une chance que cette prestation fût enregistrée, ce que ne savait même pas le chef d'orchestre lui-même, comme il le reconnaissait 12 ans plus tard, en 1950, lors de la publication de ce disque devenu légendaire. Nous ne savions pas que le concert était enregistré à l'époque. Nous l'avons appris bien plus tard. J'avais tellement bien rangé cette bande magnétique que j'en avais oublié l'existence pendant au moins 12 ans, jusqu'à ce que l'une de mes filles retrouve ce document sonore dans un tiroir à la maison. Nous avons aussitôt décidé de le confier à Columbia Records, qui a édité un 33 tours. Et voilà le résultat. Mais permettez-moi de vous présenter ce concert. Ce 16 janvier 1938 était un dimanche. Il faisait très froid. On ne savait pas trop à quoi nous attendre, quelle serait la qualité sonore du groupe, comment le public allait nous accueillir. Nous ne savions même pas s'il y aurait du monde dans la salle. Nous sommes montés sur scène dans cet état d'esprit et nous avons joué. Nous avons démarré le concert avec Don't Be That Way et on entend très clairement les réactions enthousiastes du public et cela nous a profondément rassurés. Jean-Pierre Jackson.
Don't Be That Way, je ne sais pas, il doit y avoir une cinquantaine de versions. Mais celle-là est tout à fait particulière parce qu'elle est vraiment en deux parties. Comme l'explique Benny Goodman, ils étaient très très anxieux, ils ne savaient pas s'il y aurait du monde. L'endroit était impressionnant, c'est la première fois qu'ils y pénétraient, en plus pour jouer. Et lorsqu'on écoute l'exposition du thème, c'est absolument impeccable, c'est bien propre, c'est bien en place et tout, mais ça manque un peu de folie quand on compare cette version avec celle qui existe auparavant, que ce soit au Congress Hotel de Chicago, ou au Palomar, ou au Camel Caravan et tout ça. Et Gene Krupa, le batteur, qui était quand même un fou furieux, se dit « je ne vais pas passer toute la soirée à faire ching-giling tranquillement ». Et il fait un break de deux mesures. Alors, nous sommes un certain nombre, on a essayé de le relever, et c'est impossible. Et c'est un break d'une totale et absolue folie. C'est-à-dire qu'on se demande même comment il retombe, comment l'orchestre rentre après, mais on sent que là, quelque chose s'est passé, c'est-à-dire que, comme on dit aujourd'hui, ça y est, ils vont se lâcher. Et c'est Krupa qui a cassé la glace et qui a tout débridé. Là, il se passe quelque chose et je sais que chaque fois que je l'entends, ça m'électrise, quoi. Un peu comme le public de ce soir-là, oui.
Toutes ces explications et commentaires qui nous éclairent sur la valeur patrimoniale de cette archive, plongeons-nous dans le programme précis de ce concert historique. Et c'est Benny Goodman qui sera notre guide durant les prochaines minutes. Une partie du programme de cette soirée était un condensé des 20 premières années de l'histoire du jazz. Nous avons donc rendu hommage à des pionniers, Bix Beiderbecke, Ted Lewis, Louis Armstrong et Duke Ellington. Nous allons d'ailleurs vous faire entendre notre adaptation d'un thème de Duke Ellington. Et pour retrouver la sonorité du Duke Ellington Orchestra, nous avions fait appel à certains de ses musiciens, Johnny Hodges, Harry Carney et Cootie Williams. Et voici donc notre tentative de revitaliser à l'époque le son du Duke Ellington Orchestra avec Blue Reverie. Après avoir salué Duke Ellington, nous sommes revenus à notre propre musicalité avec le titre Life Goes to a Party, composé par Harry James. Ce titre vous donnera une idée précise de ce qu'était le swing en 1938, même dans une salle comme Carnegie Hall. J'étais alors accompagné par Babe Russin et Harry James. Voici donc ce que la fête signifiait pour nous, alors. Benny Goodman lui-même qui en 1950 commentait son fameux concert de 1938 à Carnegie Hall. Et pour nous replonger dans l'ambiance, écoutons Body and Soul.
was a trio playing Body and Soul.
Après avoir interprété le classique Body and Soul, Lionel Hampton nous a rejoint sur scène pour le titre Avalon. En 1938, nous étions suffisamment aguerris pour nous produire à Carnegie Hall. En voici la preuve avec Avalon. Le prochain titre est pour moi le grand moment de cette soirée historique. Il s'agit de Swing Time in the Rockies. Et je suis sûr que le public de Carnegie Hall n'avait jamais entendu un truc pareil.
Surely Carnegie Hall had never heard the likes of it before.
Sur ce swing trépidant que s'achève notre évocation d'une date épique dans l'épopée du jazz. Si vous voulez découvrir d'autres extraits de ce concert magique, vous avez deux solutions, vous offrir le double CD édité par Sony Music Columbia Legacy ou aller savourer la playlist de l'épopée sur Deezer. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur musique.rfi.fr ou sur l'application RFI Pure Radio, une autre façon d'écouter RFI. La semaine prochaine, nous serons plus contemporains avec une émission consacrée à l'histoire du rap, une forme d'expression toujours très vivace au XXIe siècle. Et c'est Olivier Cachin, auteur d'un ouvrage très instructif, paru chez GM Éditions, qui aura la lourde tâche d'être notre guide dans cette aventure cinquantenaire du hip-hop. L'occasion de vous recommander une exposition qui se tiendra du 2 février au 31 mars au pavillon carré de Baudouin, dans le 20e arrondissement à Paris, et consacrée à la mémoire du hip-hop avec un fonds d'archives présenté pour la première fois à Paris. Bref, incontournable. Merci à Nathalie Laporte d'avoir épousté les enregistrements de ce 16 janvier 1938. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours et laissons le dernier mot à Benny Goodman. Peut-être avez-vous à présent une meilleure idée de ce que fut ce concert à Carnegie Hall. J'espère que vous y avez pris du plaisir, autant que nous à l'époque.